Mes amis, Christ est ressuscité. Ça vous a pas beaucoup réveillé. Christ est ressuscité. Voilà. Et c'est étonnant, mais au moment où le Seigneur est ressuscité, on nous dit que les gardes au tombeau devinrent comme morts. Il y en a un qui a retrouvé la vie et d'autres qui semblent s'écrouler, comme s'ils suivaient le cours du fleuve et la pente et qu'ils retournaient à la terre de la glaise d'où Adam avait été tiré, comme s'il y avait une forme d'attraction mortelle qui semble emprisonnée dans la torpeur. Mais la vie, ici, va être portée par le ciel, les anges, la bonne nouvelle de cette vie. Et s'il n'y avait pas les anges, les femmes n'auraient rien compris, rien su. Et ensuite, la bonne nouvelle de la vie est portée par des femmes. Et si ces femmes n'avaient pas été là, le reste du genre humain, les apôtres en premier, n'auraient rien compris. Il nous faut des anges, frères et sœurs, pour nous introduire au tombeau. Il nous faut ces créatures célestes qui déjà étaient là à Noël, souvenez-vous, dans la nuit, et qui glorifiaient Dieu. Ces anges qui sont présents dans toute la liturgie de l'Église lorsque nous chantons le Sanctus, Saint, 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 le Seigneur, des armées célestes. Alors, les anges nous introduisent toujours aux demeures de Dieu. Et ici, ils nous invitent, venez voir l'endroit où ils reposaient. Comme ils avaient dit aux bergers, d'aller voir l'enfant couché dans la crèche. Cette fois-ci, il n'est plus couché, il est resplendissant, vivant. Peut-être faut-il encore un peu de temps pour que nos yeux s'accommodent et s'ajustent à la lumière pour le voir. Déjà, préparons-nous en contemplant le tombeau vide. La pierre roulée et le tombeau vide, c'est déjà bien, c'est déjà suffisant. Nous l'entendrons demain matin. Le disciple que Jésus aimait voit le tombeau vide et il croit. Les anges nous introduisent au mystère et les femmes vont être porteuses de ce message. Rien d'étonnant en cela. C'est la vocation des femmes depuis Ève, de faire jaillir le cri du cœur d'Adam, de faire voir la raison d'être de notre vie. C'est les femmes qui donnent au genre humain de comprendre que l'homme est tout homme, que tous les hommes, que tout le genre humain est fait pour partager dès cette terre la vie du ciel. Le pauvre Adam, seul, ne pouvait rien y comprendre tant qu'il n'avait pas Ève, la beauté incarnée devant lui. Il fallait la femme pour que le genre humain comprenne qu'il est fait pour contempler, pour s'émerveiller. Et il faut ces femmes ici, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, nous dit saint Matthieu. La grande crainte du mystère porté par les anges, qui fait que, comme devant le buisson ardent, on se déchausse et on se voile la face. Et une grande joie, car ce qui survient est certes une promesse accomplie, mais est un événement si singulier qui arrache à la fatalité de la mort. Jamais aucun n'avait rien vu de cela. Et même ceux qui avaient vu Lazare mort et sortir de son tombeau n'imaginaient pas un instant que le sort de Jésus ne lui serait fatale. En fait, cette résurrection de Jésus, pourtant annoncée, reste la seule vraie surprise de ce monde, car Lazare est mort plus tard. Mais cette fois, le Christ est ressuscité pour toujours. Il est le premier né d'entre les morts. Cette fois, l'humanité a basculé dans l'irréversible. Il y a désormais un point de non-retour. On ne reviendra pas en arrière. Alors les hommes continueront, comme ces gardes, à être comme pris par l'attraction terrestre et mortelle, pris de torpeur, comme morts. Les hommes continuent de se battre et puis de se livrer à leurs mêmes passions humaines. Aujourd'hui, ils réfléchissent sur leur vie en disant qu'elle est finalement bien trouble, avec ses nombreux troubles de l'identité. Ils réfléchissent sur leur mort en disant qu'ils voudraient mourir dans la dignité, mais ils ne voient pas que leur identité véritable, c'est celle que Dieu donne, et que tous les troubles de la terre, de nos cœurs humains, de nos humanités blessées, de nos tâtonnements, de nos incertitudes, que tous ces troubles viennent du fait que nous sommes des êtres apatrides, nous n'avons pas de terre tant que nous ne sommes pas plantés sur la terre du Seigneur, sur la terre qu'il nous a promise, sur la vie qu'il nous a donnée. Notre identité véritable, par le baptême, c'est que nous sommes devenus éternellement et de manière irréversible fils de Dieu. Irréversiblement, Jésus est vivant, sorti de la mort, et irréversiblement, vous allez être baptisés et vous allez, de manière irréversible, sans retour en arrière possible, vous allez recevoir votre identité éternelle, plus puissante, plus guérissante, plus consolante que tous les troubles de la terre qui vous frapperont encore et qui continuent de frapper le genre humain. Il y a quelque chose de la victoire du Christ ressuscité que vous allez, vous les catéchumènes, recevoir dans quelques instants. Et puis les hommes s'interrogent encore, non plus sur leur vie et les troubles de leur vie, mais sur leur mort, ils veulent mourir dans la dignité. Qui s'est posé la question de la dignité de la mort de Jésus? Qui s'est seulement interrogé pour savoir si Jésus était mort dignement? Ce qu'il y a d'indigne dans ce qui s'est passé, c'est que nous l'ayons éjecté de nos vies, que nous l'ayons mis à mort, le seul qui ne devait pas mourir. La dignité de l'homme, c'est précisément ce mystère de Pâques qui nous la révèle de manière éminente. La dignité de l'homme, c'est qu'il est appelé par les anges à entrer dans la gloire de Dieu. C'est que, conduit par ses messagers, nous sommes introduits au parvis céleste. La dignité de l'homme, c'est que l'homme est fait pour partager la vie de Dieu. Et la plus grande fragilité, même du mourant, ne lui enlèvera jamais sa dignité. Vivre et mourir dans la dignité, c'est recevoir notre vie de Dieu, c'est être appelé à la vie de Dieu, c'est cela qui nous rend dignes. Et vous qui allez être baptisés, vous avez entendu cet appel au fond de vous, le Seigneur qui vous a appelé, et vous n'êtes pas venu ici chercher juste un petit plus, un petit réconfort, un petit mieux dans votre vie, un peu plus de bien-être. Vous êtes venu chercher une vie nouvelle, la vie éternelle. Vous êtes venu embrasser cette dignité que Dieu voit en vous, à laquelle il vous appelle. Cette dignité de fils adoptif de Dieu le Père. Et tout à l'heure, en récitant le Notre Père, que vous avez déjà appris, le Notre Père, vous le direz pour la première fois de manière absolument vraie, de manière irréversiblement vraie, indéfectiblement vraie. Quels que soient les troubles de la vie, quelle que soit la mort qui nous frappe, il est vrai que vous resterez toujours des enfants de Dieu, votre Père, qui vous adopte dans le baptême, pour toujours. Et vous qui allez être baptisés, vous avez eu des femmes, elles-mêmes envoyées par des anges. Et vous avez des anges qui ont envoyé des femmes, qui ont envoyé des disciples, qui sont allés vous chercher. Une chaîne de transmission des anges jusqu'aux disciples, jusqu'à vous. Et cette chaîne de transmission ne s'est jamais interrompue. Ceux qui ont été témoins de la résurrection du Christ n'ont pu se taire. Alors vous devenez disciples, et vous-même, vous ne pourrez pas vous taire. Un baptisé peut-il se taire ? Non ! Un baptisé est porteur de ce message angélique, céleste, pour la terre. Et il porte ce message aux hommes troublés dans leur vie, inquiets de leur mort. Et le disciple du Seigneur, enfant de Dieu le Père, vraiment et éternellement, crie ce message et ne peut qu'en témoigner. Il y a quelque chose pour nous d'incompréhensible. Ce n'est pas tant que Jésus soit ressuscité, mais c'est que malgré la résurrection de Jésus, si peu se tourne vers lui. Et cela ne peut nous laisser indifférents. Alors nous portons, nous, des poteries sans valeur, un trésor immense. Nous sommes faits les tabernacles du corps du Christ. Vous allez être faits dans la confirmation aussi, les temples de l'Esprit-Saint. Vous allez revêtir ce vêtement blanc, signifiant votre âme lavée de tout péché, et vous porterez la lumière du cierge baptismal pour rayonner de cette lumière et continuer de vous éclairer et d'éclairer ce monde de la lumière de Jésus qui vous est confié pour que vous l'annonciez. Un disciple n'est disciple que s'il est témoin. Être disciple sans être témoin, ce serait demander à un enfant de rester enfant sans jamais pouvoir un jour porter la vie. Qui pourrait désirer qu'un enfant soit empêché de porter la vie ? Un disciple n'est disciple que lorsque il laisse la vie du Seigneur le traverser, qu'elle ne s'arrête pas en lui, qu'elle n'est pas stoppée dans sa vie, dans sa propre existence. Elle n'est pas confinée. La vie de Dieu nous traverse et il y aura demain d'autres disciples envoyés par des femmes, envoyés par des anges, envoyés par Dieu. Que le Seigneur, frères et sœurs, nous donne, en présence de ces baptêmes que nous allons célébrer, nous-mêmes, d'être replongés, nous qui sommes déjà baptisés, dans cette vocation baptismale et de retrouver la vigueur des disciples qui témoignent du Seigneur, de nous réveiller de toute torpeur et de ne pas nous arrêter à ce qui nous trouble dans notre vie ou à notre mort qui viendra de manière certaine, mais pour laquelle nous savons que maintenant et à l'heure de notre mort, le Seigneur continue de nous bénir comme ses enfants. Frères et sœurs, que cette joie pascale, sortant de cette église, se déverse sur le monde, sur tout le monde, sur le monde le plus éloigné, sur les hommes et les femmes les plus abattus, sur ceux pour qui personne ne prie, sur ceux qui ont besoin d'être consolés, et même, sur ceux qui le rejettent. Car l'amour du Seigneur est plus fort, il est victorieux, il nous conduit à la joie éternelle, et maintenant le Christ glorieux, élevé de terre, attire à lui tous les hommes. Amen.